Dico.
C'est une affaire qui secoue l'actualité de ces dernières heures à Charleville-Mézières. Un octogénaire, c'est-à-dire un homme de plus de 80 ans, abat un jeune homme de 21 ans qui occupait son local d'immeuble et qui installait un climat anxiogène dans le quartier et au bas de la résidence de cet habitant qui, visiblement excédé, a donc décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. Cette affaire pose beaucoup de questions. D'abord sur la vie dans les quartiers, sur aussi l'autodéfense. On sait que c'est un thème qui monte très fort en ce moment dans la société. Eh bien, nous allons en parler avec nos deux éditorialistes, Carole Barjon, grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Bienvenue, Charlotte Dornelas est aussi avec nous. Bonjour Charlotte.
Bonjour Dimitri.
Journaliste à Valeurs Actuelles. On aura un mot évidemment aussi de... Évidemment, on parlera de cette élection d'Éric Ciotti, président des LR. Est-ce qu'il est l'artisan d'un renouveau ou bien liquidateur judiciaire de la droite traditionnelle? On va voir ça. Mais d'abord, cette affaire de Charleville-Mézières. Carole Barjon, ce fait divers quand même nous interpelle. On pourrait presque même aussi mettre l'affaire en parallèle avec aussi ce drame à Beson, où là ce sont deux jeunes qui ont tué un octogénaire de 80 ans. Déchaînement de violence intergénérationnelle, ça pose beaucoup de choses, beaucoup de questions ces affaires.
Ce qu'on constate, c'est que au fond, lorsque il y a des problèmes de voisinage qui, comment dire, deviennent pratiquement des incivilités, puisque ce monsieur de 82 ans, ouvrier à la retraite, se plaignait apparemment depuis 9 ans. Et les jeunes...
La victime a 21 ans.
La victime qui a 21 ans...
Donc tout ça commence quand le gamin a 12 ans, quoi, en fait. Hein.
Oui, en gros. Et donc, il y avait eu plusieurs signalements. Il avait déjà été condamné, je crois, pour deux fois pour outrage et rébellion, enfin bref. Et donc, manifestement... rien n'avait vraiment changé et ça n'excuse évidemment pas le fait de tuer quelqu'un parce que c'est quand même un meurtre mais voilà, c'est l'exaspération face aux incivilités permanentes et face au fond à une certaine forme d'impuissance de la police et donc le type il a pris son fusil, il a tiré, alors c'est pas brillant.
Oui, alors il n'y a pas de réalité juridique, mais le parquet parle le procureur, pardon, parle de crime par exaspération, Charlotte Dornelas.
Oui, et en fait, l'image est extrêmement parlante. En effet, juridiquement, je ne suis pas sûre que ce soit un qualificatif qui tiendra devant le tribunal, qui pourrait être qualifié comme tel.
Mais on cerne l'esprit, finalement.
Mais on cerne exactement l'esprit, et surtout, on prend conscience. Vous savez, moi, ce genre d'affaires, je me dis à chaque fois, on met le doigt exactement sur ce dont on parle en permanence en disant, vous savez, ils pourrissent la vie des gens dans les quartiers. Mais en fait, c'est ça, pourrir la vie. C'est-à-dire que pendant 9 ans, ça peut potentiellement transformer aussi un honnête homme, parce que lui n'était connu de personne, en meurtrier, puisque en effet, il a tiré sur un homme et il l'a tué. Donc ça le transforme de fait en meurtrier. L'histoire, elle est d'une tristesse, mais totale. En effet, le gamin, il a 21 ans. On apprend que ça fait 9 ans qu'il lui pourrisse la vie. Et c'est pas simplement des incivilités. C'est-à-dire qu'il l'attrape, il lui tire dessus, il l'empêche de rentrer chez lui. Il l'attrape, quoi. Il l'empêche de rentrer chez lui, il lui crache dessus, il l'insulte.
Ça boit, ça fume dans le hall en bas.
C'est des odeurs de cannabis en permanence. Alors, j'ai lu, pareil, dans à la fois les dépêches, les différents articles, les gens ont l'air de s'étonner que les policiers, qui en effet, notamment locaux, qui étaient appelés et qui passaient de temps en temps, que ce jeune homme ne soit pas connu pour infraction sur les stupéfiants. Mais il faut être extrêmement naïf pour penser que la police, aujourd'hui, peut s'occuper des gens qui fument du cannabis chez eux. C'est-à-dire qu'on est loin de ça. Ils sont déjà débordés avec des choses infiniment plus dangereuses, on va dire, pour la société elle-même. Et évidemment que ces gamins-là sont dans une impunité totale. Ils voient passer, en effet, ils pourrissent la vie de tout le monde. Cet homme se plaint. Il leur dit, il y a les bailleurs de l'immeuble qui sont tenus au courant, les policiers qui passent régulièrement. Il a en effet deux outrages et rébellions à son actif. Et évidemment, ça ne l'arrête pas un quart de seconde. Et on apprend que ça fait 9 ans que ça dure. Franchement, c'est triste à mourir parce que cet homme est...
Je suis d'accord. C'est triste, mais malheureusement, c'est très banal. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait. C'est qu'il y a une forme de banalisation. C'est-à-dire ce genre de situation. Ça fait des années qu'on entend parler de ce genre de choses.
L'issue extrême, c'est-à-dire ça se résout par les armes avec un mort, ça c'est exceptionnel. Mais en revanche, la situation est d'une triste banalité.
Oui, absolument. Les incivilités, ça fait des années qu'on en parle. Et ça comprend aussi parfois une forme de harcèlement qui n'est pas forcément volontaire, je veux dire. mais de jeunes ou de personnes qui se comportent mal, qui ne font pas attention aux autres, et effectivement, qui passent leur temps à, au fond, pourrir la vie quotidienne des habitants, parce que leurs habitudes de vie sont pas les mêmes, parce qu'ils font du bruit, parce qu'ils ne respectent pas, etc. Et au bout d'un moment, oui, il y a une partie de la population qui qui s'énerve. Oui. Bon, et dans le cas précis,
Est-ce qu'on va avoir un débat?
Ce monsieur avait un fusil. Oui. Bon,
va-t-on avoir un débat moral comme on avait pu en avoir sur quand cette femme, Jacqueline Sauvage, avait abattu son mari après, qui était une forme aussi de crime par exaspération après des années à se faire battre. On retrouve un petit peu ce débat-là avec d'un débat asymétrique entre ce qui se dit au plan du droit où les choses sont assez limpides et sur le plan morale où c'est beaucoup moins clair.
Mais non, mais c'est marrant, c'est pas du tout drôle, mais j'ai pensé exactement à elle quand j'ai entendu le procureur parler de crime par exaspération. En effet, je pense qu'on n'aura pas le même débat parce qu'il n'y a pas la même charge, on va dire, qui pèse sur les deux sujets, c'est-à-dire les violences faites aux femmes d'un côté et les femmes qui subissent les violences de leur mari, ce qui était le cas de Jacqueline Sauvage pendant très longtemps, parce que le débat portait sur le fait qu'au moment où elle avait tiré, elle n'était pas en danger immédiat sous les coups de son mari. Au moment où elle a tiré, et c'est le débat portait donc là-dessus, est-ce qu'il y a un crime par exaspération dans le temps? Ses avocates avaient quand même parlé de légitime défense différée à l'époque, et donc il y avait eu un débat entre les tribunaux qui la condamnaient et le président de la République, en l'occurrence qui l'avait gracié partiellement d'abord et totalement ensuite. Et là, est-ce que cette exaspération dans le temps qui pèse avec un état de fait impuissant à protéger cet homme, et on sent par ailleurs qu'il y a une tension de manière générale dans le quartier, le récit que font les policiers de l'arrestation de cet homme avec la foule prête à le lyncher qui brise les vitres pour rentrer dans l'appartement.
Oui, parce qu'il faut raconter ça, c'est-à-dire que l'homme s'est replié chez lui, a les armes à la main, mettant en joue les forces de l'ordre, les policiers, ça a été très 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 tendu et difficile de le désarmer, et lorsqu'il est parti emmené au commissariat, le quartier s'est vengé sur l'appartement de cet homme.
Et le quartier s'est vengé, mais même en présence des policiers, d'ailleurs bravo à eux, parce que là aussi, vous savez, c'est là aussi on met le doigt sur une réalité très concrète où on dit, oui, les policiers interviennent dans des situations difficiles. Là, la situation difficile, ils sont mis en joue par un homme qui est dans son appartement, on ne sait pas ce qu'il est, ces deux jeunes policiers, enfin jeunes, j'imagine, j'en sais rien d'ailleurs, mais ils rentrent chez lui, ils sont mis en joue avec une foule rageuse, selon leurs termes, qui est derrière eux, ils arrivent à l'extraire de son appartement, enfin franchement, bravo quoi.
Oui, ça pose quand même le problème de, effectivement, de la présence insuffisante des forces de l'ordre ou de systèmes de surveillance avec des vigiles
du déplacement total,
qui passent, voilà, et donc de moyens de prévention de ce genre de drame, parce que malgré tout...
Vous parlez d'ordre, de sécurité, permettez-moi cette transition un peu raide, mais qui tombe à pic, si je puis dire. Éric Ciotti, donc élu président des Républicains avec 53,7% des suffrages devant Bruno Retailleau. La passation de pouvoir avec Christian Jacob, donc président sortant, aura lieu cet après-midi. Et alors, c'est le Figaro qui pose la question ce matin sous la plume de Guillaume Tabar. Éric Ciotti sera-t-il l'artisan d'un renouveau des LR ou bien un syndic de faillite? Belle formule.
Oui, c'est une très bonne question. Ce qui est compliqué pour Éric Ciotti, parce qu'il faut quand même partir déjà du résultat de l'élection, c'est qu'il est, il a obtenu une victoire, nette, mais pas franchement écrasante, compte tenu du fait que, comme on le sait...
Mais chez les LR, on en est content.
Il était le... Oui, d'accord.
Parce qu'on dit, ça fait un beau perdant.
Non, mais peut-être, mais la vérité, c'est que la victoire de Ciotti n'est pas écrasante, alors qu'il était le grand favori. Donc, on peut penser aussi que c'est une forme de revers différé, si je puis dire, pour Laurent Wauquiez, parce qu'on sait parfaitement que le propos d'Éric Ciotti, c'est d'installer Laurent Wauquiez à la tête de LR et surtout de le faire désigner comme candidat à la présidentielle très rapidement. Ce qui n'est pas l'avis des deux autres. Aurélien Pradier, qui était candidat au premier tour, et de Bruno Retailleau. Ouais. Donc, et à l'inverse, le score de Retailleau, franchement, est très très honorable, il fait plus de 46%, donc ça veut dire que Ciotti va devoir composer, et je pense que ça veut dire, aussi pour la droite, les militants LR, c'est qu'en fait, ils ont probablement voulu que la droite n'abandonne pas un certain nombre de combats pour les valeurs sociétales.
Voilà, qu'incarnait Bruno Retailleau en l'occurrence.
Merci. Oui, exactement.
Merci Carole Barjon, on aura l'occasion d'en reparler. Ça fait toujours, ça fait deux semaines de suite qu'on a ce débat un peu tronqué sur les LR. Je sais que ça, vous auriez aimé en avoir un peu plus de temps, mais la semaine prochaine, ma chère Carole. Non, je plaisante. Bah oui, peut-être on verra si l'actualité le commande. Merci Charlotte Dornelas également. La une de l'Obs cette semaine, vous vouliez nous la donner, nous
écoutez,
la rappeler plus exactement.
Annie Ernaux, prix Nobel
oui.
de littérature. Et aussi, comment dire, les confidences de Brigitte Macron sur l'école.
Merci beaucoup, Carole.